Vallon, qui vient de publier aux éditions du Seuil la légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité. Je remercie également Jean-Claude Monod et Loïc Blondiot, qui sont des interlocuteurs tout au long de cette soirée. Merci.
Bonsoir, je m'appelle Loïc Blondiot, nous sommes réparti le travail à moi la présentation de la vie et de l'œuvre de Pierre-Rosan Vallon, mais d'une manière relativement brève, factuelle, sur finalement le parcours qu'il a amené à produire ce livre dont il sera question ce soir. Alors, quelques éléments biographiques sur Pierre-Rosan Vallon, sans reprendre l'intégralité de sa biographie. Je pense qu'il a eu plusieurs, et il continue à avoir plusieurs vies, une vie de militant syndical au tout départ, et une vie de chercheur, d'universitaire, qui l'a conduit à l'École des hautes études, et puis maintenant au Collège de France. Et parallèlement à cette vie universitaire, à cet investissement dans la recherche, je crois qu'on peut qualifier Pierre-Rosan Vallon, pour reprendre un vieux slogan de la FNAC, d'agitateur d'idées. Il mène aujourd'hui, au sein de la République des idées, un travail, une interface entre la recherche, les sciences sociales et le débat public, qui me semble rencontrer un certain écho, hein, si l'on en juge, par les tirages de la République des idées et par la fréquentation d'un site qu'il a monté il y a quelques années, il y a 2 ans, qui s'appelle lavidesidées.fr. Alors, dans l'œuvre de Pierre-Rosan Vallon, il y a aussi plusieurs œuvres, plusieurs bibliographies possibles. Il y a des éléments qui se donnent à voir comme des éléments relativement cohérents. J'en prendrai 3 simplement parmi d'autres. Une réflexion sur la question sociale, envisagée à la fois sous l'angle du syndicalisme, de l'État-providence, des inégalités sociales. Il y a une réflexion sur l'État, qui me semble aussi un des éléments structurants de sa pensée. Une réflexion sur l'histoire de l'État. Il a un petit livre qui est sorti en Poinceuil il y a quelques années, qui est très utile. C'est l'histoire de l'État en France. Et puis une réflexion à travers cette histoire de l'État sur la spécificité du modèle étatique français, du modèle jacobin. Et puis la dernière, celle qui a produit finalement les recherches les plus nombreuses, les plus volumineuses au cours de ces dernières années, c'est une réflexion sur la démocratie, sur les démocraties contemporaines, sur leur avènement, sur leur généalogie et sur leur situation actuelle. Et j'ai le sentiment que tout est structuré, notamment les 2 dernières trilogies. Nous sommes aujourd'hui avec ce livre, La légitimité démocratique, je crois, si je ne me trompe pas, au second volume de la seconde trilogie engendré cette réflexion sur la question démocratique. La manière dont Rosan Vallon prend la question de la démocratie, c'est essayer de réfléchir à la démocratie, pour reprendre une de ses expressions, comme problème et non comme solution. C'est-à-dire le modèle de démocratie sous lequel nous vivons est un modèle qui pose autant de questions qu'il ne règle de problèmes. Et le démarrage, me semble-t-il, de cette réflexion historique, c'est la Révolution française, c'est la manière dont la démocratie représentative est apparue comme une solution instrumentale, une solution procédurale pour la conciliation d'impératifs contradictoires. La nécessité de faire une place au peuple dans la démocratie, le principe du nombre, et d'autres nécessités, comme la nécessité de produire de la raison dans la société. Cette question, elle me semble avoir beaucoup à voir avec une partie de la philosophie contemporaine, philosophie politique contemporaine la plus intéressante, notamment avec celle de Claude Lefort, qui définit la démocratie comme ce régime où le pouvoir est un lieu vide, qui ne peut pas légitimement être occupé, et donc qui est source constante de problèmes quant à la légitimité que pourraient avoir certains acteurs à occuper cette position. La démocratie aussi, toujours chez Claude Lefort, comme lieu d'institutionnalisation du conflit. Alors, la recherche de Pierre Rosanvallon est là pour, me semble-t-il, originalité profonde d'accomplir des va-et-vient constants entre le présent et le passé, entre le contemporain et l'histoire. Et je laisserai Jean-Claude Monod la situer plus largement dans l'univers de la philosophie politique. Mais j'ai vraiment le sentiment que la démarche historique, la démarche généalogique de Pierre Rosanvallon, qu'il a conceptualisée autour de la notion d'histoire conceptuelle du politique, est profondément originale. C'est une histoire qui n'est pas téléologique, c'est-à-dire qu'il raconte finalement l'émergence de la démocratie représentative, la construction des institutions qui la fondent sous tous les angles, et non pas comme quelque chose qui devait nécessairement aboutir à ce qui existe aujourd'hui. Il envisage tous les possibles qui ne sont pas advenus, et il fait la même place aux critiques des solutions institutionnelles choisies qu'à leur justification. Et c'est ce qui me semble une contribution tout à fait essentielle. Cette histoire aussi constitue pour le lecteur contemporain, chercheur, mais aussi citoyen, une sorte de répertoire d'exemples, répertoire d'arguments. Il y a une formidable érudition dans ces livres qui nous servent à penser aujourd'hui la démocratie à partir du moment où, comme le dit Pierre Rosanvallon, nous sommes dans la même expérience démocratique que ceux qui nous ont précédés. Les problèmes qui se posent à eux sont les mêmes, en tout cas ressemblent beaucoup aux problèmes qui se posent à nous. Alors, deux trilogies. La première qui me semble donner à voir la construction progressive de ce modèle de démocratie représentative qui est en question aujourd'hui, autour du suffrage universel, de la place centrale du suffrage universel, c'est le premier livre, Le Sacre du Citoyen, autour de la représentation, le peuple introuvable, comment finalement on a fini par trouver une solution à cette question relativement insoluble, ou en tout cas extrêmement compliquée, de la représentation du peuple en démocratie, et la question de la souveraineté. Et cette histoire, c'est une histoire relativement discontinue, hein, ça n'est pas l'histoire d'une sorte d'envol, des progrès indéfinis de la démocratie, c'est l'histoire aussi de la manière dont ce modèle de démocratie représentative a intégré ses critiques, a réussi à se transformer à l'épreuve de sa critique, et je vois, toutes choses égales par ailleurs, des similitudes entre ce travail et la réflexion que notamment quelqu'un comme Luc Boltanski a fait sur la manière dont les capitalisme a réussi à se renouveler en intégrant sa critique. Alors nous entrons maintenant, pas au seuil, mais en tout cas aux deux derniers volumes de cette œuvre, hein, qui en compte beaucoup, qui en compte 23, et au deuxième tome de cette trilogie. Le premier livre s'intitulait « La contre-démocratie », et s'intéressait en quelque sorte à la face cachée mais néanmoins indispensable de la démocratie pour qu'elle existe, pour qu'elle soit vivante, qui est la capacité que les citoyens ont de remettre en cause, de défier, de surveiller, de juger les institutions et la sphère représentative, électorale représentative. Et aujourd'hui, le livre qui nous réunit ce soir s'appelle « La légitimité démocratique, impartialité, réflexivité, proximité ». Et j'ai vraiment le sentiment que aujourd'hui, le diagnostic que Pierre Rosanvallon fait sur la crise de la démocratie représentative contemporaine, la manière dont il analyse l'épuisement de ce modèle dont nous avons hérité et qui continue aujourd'hui à vivre, la manière dont il analyse aussi ce qu'il appelle son décentrement, sa contestation par d'autres formes de légitimité, par d'autres figurations du pouvoir, l'a amené à apporter deux contributions très importantes, me semble-t-il, à la théorie de la démocratie. La première contribution, c'est celle de la contre-démocratie, c'est l'idée aujourd'hui que la démocratie ne peut pas se concevoir uniquement comme une forme institutionnelle. La démocratie, comme le disait Tocqueville, est à la fois un régime et un fait de société, et qu'on ne peut la penser vraiment que dans sa dimension institutionnelle et sa dimension non-institutionnelle, sa dimension critique, et ça me semble être quelque chose de tout à fait tout à fait important. Et dans la légitimité démocratique, le livre dont nous allons discuter ce soir, il y a la volonté de penser la démocratie non pas comme un état, non pas comme une donnée, mais comme un processus. La légitimité démocratique, ça n'est pas un statut qui est conféré à certains acteurs du fait de leur élection, c'est un travail continu qu'ils doivent accomplir, un travail d'exploration de la société, c'est ce qu'ils appellent, et on y reviendra, la légitimité d'impartialité pour produire du commun, pour produire de la généralité. Il faut interroger la société dans toute sa complexité, et ça ne peut être fait que par des institutions impartiales. Un processus aussi de délibération entre différentes figures ou figurations du peuple. On y reviendra, différentes formes de représentation du peuple. Le peuple ne se donne pas uniquement dans l'élection, il n'existe pas, la volonté générale n'existe pas uniquement au travers de l'élection, mais elle existe aussi sous d'autres formes. Le peuple social, celui qui s'exprime dans la rue, celui qui s'exprime dans la critique, et ce que Pierre Rosanvallon appelle le peuple principe, celui qui est porté notamment par la Constitution, défendu par les cours constitutionnels, une sorte de vision d'une certaine permanence de ce que sont les droits politiques des individus. Et puis enfin, et c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que je suis directement concerné dans mes travaux de recherche, ce que, très heureusement, Pierre Rosanvallon appelle une démocratie d'interaction, c'est-à-dire un processus d'interaction constant entre les gouvernants et les gouvernés, que l'on nomme ailleurs, et d'une manière souvent caricaturale, démocratie participative. La démocratie participative a cette fonction, visée de produire de la généralité, de produire un monde commun, de faire en sorte que les représentants soient tenus en lisière par d'autres expressions et d'autres représentations du public. Voilà cette réflexion, donc une réflexion sur l'institutionnalisation de la démocratie, la démultiplication des institutions aujourd'hui qui peuvent exprimer légitimement la démocratie. Dernier élément que je voudrais verser au dossier, ce que je trouve particulièrement important dans le travail de Pierre Rosanvallon, c'est aussi sa posture. Contrairement à beaucoup de ceux qui aujourd'hui ratiocinent sur les transformations de la démocratie, qui mettent en cause, par exemple, la revendication de plus en plus systématique de droits individuels de la part de chaque individu, de droits individuels évidemment, partout dans la société, cette idée que cette extension du domaine des droits politiques constituerait une menace pour la démocratie, Pierre Rosanvallon ne la retient pas, me semble-t-il, complètement, ne verse pas dans la haine de la démocratie, mais il analyse les potentialités de démocratisation de la démocratie qui sont derrière ces évolutions. Il a une vision de ce que finalement ces transformations pourraient produire comme avancée démocratique, qui me semble beaucoup plus lourde d'espérance, ou en tout cas beaucoup plus intéressante que la simple critique au nom du réalisme de la crise de la représentation. Voilà, j'espère avoir dit les choses dans le vocabulaire le plus simple, ne pas avoir caricaturé tout cela, et je vais laisser Jean-Claude Monod poser vraiment les problèmes d'une manière infiniment plus profonde et philosophique.
Ça s'annonce, voilà, le passage de témoin, voilà. Donc alors effectivement, moi je vais non pas du tout entrer dans les profondeurs abyssales de la pensée, mais simplement essayer de présenter l'œuvre de Pierre Rosanvallon d'un point de vue, à partir d'un point de vue qui est effectivement une formation plutôt philosophique, même si j'ai un certain faible pour les philosophes historiens, en quelque sorte, une sorte de tradition, Hegel, Marx, Michel Foucault, des penseurs qui interrogent l'histoire et qui historicisent leur objet également. Et donc voilà deux aspects qui m'intéressent particulièrement dans cette œuvre de Pierre Rosanvallon. D'une part, précisément cette façon dont elle mêle histoire et philosophie politique et construit une forme, je pense, originale d'histoire philosophique, à la fois conceptuelle et orientée en même temps vers les réalités institutionnelles, vers les innovations sociales également, qui ont marqué au moins les deux derniers siècles. Et d'autre part, le fait qu'il s'agit, mais Loïc Mandiot l'a dit, en la sorte d'une pensée de la démocratie qu'on pourrait appeler une pensée démocratique de la démocratie. C'est le sens d'une pensée positive de la démocratie, qui défend la démocratie, mais qui le fait non pas sur le mode de la défense d'une forme pure, qui aurait été achevée, je ne sais quand d'ailleurs, mais plutôt une pensée de la démocratie comme réalité mouvante, qui s'invente encore sous nos yeux, justement, et sans que nous prenions suffisamment la peine, précisément, de penser ce qu'elle invente. Donc il faut penser cette invention, penser ces mutations et ces complications, je pense, au bon sens du terme, mais peut-être au mauvais sens du terme, ce sera en tout cas un des points que j'aimerais discuter tout à l'heure et puis revenant. En tout cas, non, il est certainement important de ne pas se contenter d'une image à la fois floue et réductrice des fondements de la démocratie, des modalités réelles d'exercice de la démocratie, qui sont beaucoup plus diversifiées que le simple acte électoral auquel on a souvent tenté de la réduire. Et donc, dans cette perspective même, je reviens au premier point, Pierre-Rosa Vallon a alterné, comme Loïc Mandiot l'a rappelé, des ouvrages d'histoire, des problèmes constitutifs de la démocratie, des dimensions constitutives de la démocratie moderne, le suffrage universel, la représentation du peuple, la souveraineté du peuple, les modalités de contre-pouvoir, de contre-démocratie, de notions distinctes, et des ouvrages plus centrés sur le présent, depuis l'âge de l'autogestion, et qui, en un sens, posait déjà la question de l'appropriation démocratique de l'économie, en l'occurrence, l'appropriation démocratique de l'économie, ou de l'extension des principes démocratiques à la vie sociale et économique, jusqu'aux deux derniers, donc la contre-démocratie et la légitimité. Alors, je viens donc de la philosophie, comme je vous disais, mais souvent je trouve que la philosophie politique en France tourne un peu en vase clos. C'est-à-dire elle a tendance à se rabattre sur l'histoire de la philosophie politique, sur le commentaire des grands auteurs, qui est une chose tout à fait nécessaire et précieuse dans son œuvre, bien sûr, on n'en a jamais fini, Platon, Rousseau, Hegel, etc. Mais ça ne suffit certainement pas, ne serait-ce d'ailleurs que parce que tous ces auteurs, là, essayaient de penser la réalité qui leur était contemporaine. Et donc, sur la question, par exemple, de la légitimité démocratique, la question du lien de l'élite, il me semble qu'au fond, une réponse très typique et spontanée quand on est formé à la philosophie, ce serait de dire qu'en gros, la légitimité démocratique, c'est Rousseau plus Montesquieu. C'est la volonté générale, ou peut-être le contrat social d'un côté, et puis c'est la séparation des pouvoirs de l'autre. D'ailleurs, c'est pas tout à fait faux, mais le livre de Vincent Bellon peut se lire d'ailleurs sous cet angle. C'est le problème de la légitimité démocratique en France a été, en un sens, de concilier un certain monisme, un certain unanimisme de la volonté générale, comme expression du peuple, l'unité du peuple, et concilier avec des mécanismes de limitation du pouvoir qui sont une autre manière pour le peuple d'éviter la captation du pouvoir par quelques-uns. Mais ça n'est là finalement qu'une définition assez sommaire, même si on prend ces deux éléments, une définition assez sommaire de la démocratie, on méconnaît toute une série de transformations, des modalités réelles, au fond, de production de légitimité, d'invention d'autres formes de légitimité qui ont marqué la vie politique des démocraties ces dernières décennies. Et qu'on ne peut référer ni aux monistes de la volonté générale, ni à des simples freins au pouvoir, modèle libéral, disons, de limitation du pouvoir. Alors, on reviendra sur cette transformation tout à l'heure, mais pour en rester d'abord à la méthode, il semble que les ouvrages de Pierre-François Vallon s'attachent, depuis en particulier l'État en France, depuis 1789 à deux jours, à développer et à réaliser un programme de recherche sur les différentes composantes de l'État, donc l'administration, le gouvernement, les parlements, les institutions dites représentatives, jusqu'aux élus locaux, etc. Mais ces recherches sont indissociables d'une interrogation qui relève de la philosophie politique sur le problème de la démocratie dans ses difficiles traductions institutionnelles et d'ailleurs non institutionnelles. Au fond, on pourrait reprendre le terme de François Furet qui parlait d'une histoire problème, une histoire qui par ici des contradictions et des problèmes internes à l'idée même de démocratie. Et au fond, je pense qu'on peut définir l'entreprise de Pierre-Rosa Vallon comme celle de constituer une histoire problème de la démocratie. C'est le problème du problème de Et alors, évidemment, au départ, la démocratie comme telle est un formidable problème. Un problème d'ailleurs qui, comme le rappelle Pierre Rosanvallon dans son dernier livre, figure dans le mot même et ce qui inspirait un certain malaise à ces inventeurs grecs, aux Grecs anciens, l'historienne Nicole Laurent, qui cite Rosanvallon à ce propos, parce que dans démocratie, il y a démos, bien sûr, donc il y a le peuple, l'unité du démos, l'unité du peuple, mais il y a aussi kratos. Kratos, c'est le pouvoir, la domination, et donc on est immédiatement face à la contradiction. Attention, comment éviter que ce Kratos ne se dissocie de l'unité du démos? Comment ce Kratos faire en sorte qu'il ne surplombe pas le démos, mais qu'il en soit bien l'expression, l'instrument. Voilà. Et c'est ce paradoxe qui a pris en un sens une forme virulente au XVIIIe siècle, avec cette notion de véritable bombe à retardement de la souveraineté du peuple. Là aussi, idée quasi irreprésentable. Et dans le travail historique, alors là, les ouvrages d'histoire de la démocratie de Pierre Rosanvallon, notamment la démocratie inachevée, montre bien qu'il a fallu des décennies, même des siècles, pour donner un contenu finalement viable à cette idée de souveraineté du peuple, c'est-à-dire pour la réaliser dans des formes qui n'en apparaissent pas immédiatement, comme la trahison. Comment réaliser la souveraineté du peuple sans la trahir, sans la confisquer par une sorte d'aristocratie ou d'oligarchie collective. Et Rosanvallon parle à ce propos d'une souveraineté mixte, qui a impliqué de mettre à distance différentes tentatives de résolution du problème. D'un côté, le rêve d'une démocratie immédiate et directe, et justement, donc là-dessus, Rosanvallon instruit l'histoire concrète de cette tension, de cette contradiction, c'est-à-dire, au fond, comment le peuple uni, qui prend une décision, comment est-ce que cela peut se réaliser presque physiquement? Enfin, si on pose le problème, il y avait assez primaire, en un sens, comment réaliser cela? Une décision prise par un peuple entier. Alors, on peut dire que, évidemment, on ne peut pas réunir des millions de personnes sur une place et les faire délibérer tous ensemble. Donc il a fallu trouver une sorte d'analogone de cette réunion du peuple. Et au fond, un analogone possible, ça consiste à faire qu'un jour, tous les citoyens soient symboliquement unis dans un acte, dans l'expression de leur volonté. Et ça, c'est le vote. Bon, le vote qui est, je pense, une des formes cardinales de la démocratie et qui a cette sorte de portée symbolique d'expression du peuple un. Mais bien sûr, le peuple ne peut pas en même temps voter sur tout, donc il faut qu'il délègue certains pouvoirs de décision, et le problème se déplace alors du côté de la représentation des représentants du peuple. Et comme le rappelle un autre livre de Pierre Rosanvallon, non, c'est le même, c'est vraiment la démocratie inachevée, l'idée de démocratie représentative a été elle-même très difficile à accepter. Par exemple, un député de 1793, donc la Révolution, rappelait que Rousseau, je pense que c'est quand même la grande référence, Rousseau estimait qu'une véritable démocratie était incompatible avec un gouvernement représentatif. Donc il y avait une antinomie entre démocratie et représentation. Et le livre de Pierre Rosanvallon sur la souveraineté du peuple montre justement tout ce travail théorique et pratique qu'il a fallu pour échapper à l'antinomie et donc à cette sorte de tension entre une démocratie immédiate mais impraticable et une souveraineté populaire sans médiation. Et de l'autre côté, la nécessité d'une organisation, de certains tiers organisateurs, et donc d'institutions, mais qui risquent à tout moment évidemment d'échapper au contrôle du peuple. Donc, on voit l'ampleur du problème et le fait que. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve très, très intéressant dans ces livres, c'est la façon dont, justement, autour d'un problème, on peut en quelque sorte relire l'histoire de la démocratie française. Comme une sorte de tentative de solution, parfois malheureuse, parfois heureuse, et puis avec des combinaisons, toute la complexité historique, justement. Par exemple, si je reprends l'exemple précédent, ce problème de la représentation et de l'institutionnalisation de la démocratie, on peut voir la terreur comme une sorte de tentative de désinstitutionnalisation de la politique, qui part de l'idée précisément que la souveraineté du peuple ne vit que dans l'action, en sorte ne vit que dans son moment le plus effervescent et ne peut pas retomber en institution, avec une sorte de figure de l'insurrection d'ailleurs. comme seule expression véritable de démocratie qu'on voit ressurgir périodiquement chez Blanqui, etc. Bon, c'est une des... Et inversement, il y a eu une idée plutôt de désactiver la souveraineté du peuple au profit de ce que Guizot, que Pierre Brangevin a beaucoup étudié, peut-être qu'il pourra dire pourquoi d'ailleurs, pourquoi Guizot, au profit de ce que Guizot appelait la souveraineté de la raison et de ses détenteurs, mais le problème c'est que ce sont des détenteurs autoproclamés. Si la raison, ça n'est pas le peuple, enfin, les détenteurs de la raison, ce n'est pas le peuple tout entier, c'est ceux qui sont capables de raison. Et donc ceux qui sont capables de raison, c'est bien parce qu'ils se désignent eux-mêmes comme capables de raison, et puis ils désignent aussi un certain nombre qui en sont capables. Toute cette théorie des capacités, le pouvoir appartient à la supériorité, c'est Guizot. Et puis, une autre tentative de solution, un autre exemple qui finalement lui aussi atrophie une certaine dimension de la démocratie, c'est l'expérience césariste napoléonienne avec la figure de l'empereur comme incarnation directe du peuple, qui présente une incarnation directe du peuple. Alors là, on retrouve l'unité du peuple, on a l'unité, mais c'est une unité qui se présente comme incarnée, qui convoque éventuellement des plébiscites et qui se peut devant des... Alors, ces expériences sont négatives, certaines, mais avec aussi des avancées sur d'autres aspects et dessinent peu à peu les voies de cette forme mixte, cette forme de souveraineté complexe qui passe donc à la fois par le vote, au suffrage universel, donc ça, Pierre Brangevin a également reconstitué l'histoire difficile, non pas le vote de quelques-uns, mais le vote de tous, mais aussi par l'émergence d'autres modalités d'expression démocratique, par la presse, par la pétition, par la manifestation, par donc des voix plurielles et concurrentes qui manifestent une opinion publique et un pouvoir de contrôle sur la démocratie, sur le pouvoir, auquel également Pierre Rosanlob a consacré un ouvrage au présent, une sorte d'analyse au présent dans la contre-démocratie. Alors j'ai l'impression que je suis trop long, je vais aller un peu plus vite. Donc j'en viens finalement à ce dernier livre, enfin j'approche le dernier livre, et après Rosan Ballon enfin parlera. Voilà. Ce que vous attendez tous, donc mec, je vais aller très vite. Donc toute cette approche repose sur l'idée que la démocratie ne se laisse pas réduire au vote, comme je l'ai dit, mais ne se laisse pas non plus réduire à la majorité. Donc il a fallu inventer des mécanismes d'expression du peuple différents, de temporalité du peuple, de temporalité de la démocratie différente à travers ces catégories différentes que met en place Rosan Ballon dans ce dernier livre. Donc impartialité, réflexivité, proximité, qui constituent de nouvelles attentes sur la démocratie. C'est-à-dire depuis quelques décennies, nous avons vu émerger de nouvelles attentes démocratiques, des attentes qui ont été en partie réalisées par des institutions, mais qui peuvent également être toujours dévoyées et qui menacent donc la démocratie. Enfin, c'est à la fois une chance et une menace pour la démocratie. Voilà.
Merci, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais d'abord les remercier l'un et l'autre d'avoir pris la peine de relire des textes et de faire cette introduction, et de redire d'abord à l'un et l'autre à quel point, effectivement, je suis d'accord avec leur définition de mon travail, qui consiste à essayer de réduire la différence entre une démarche d'historien et une démarche de philosophe politique. J'essaie de faire une théorie de la démocratie qui ne soit pas constituée en chambre, mais qui soit constituée à partir d'un travail sur le laboratoire vivant de la démocratie. Et pourquoi le laboratoire vivant de la démocratie? Parce que nous, en tant que citoyens, nous vivons la démocratie à la fois, pourrait-on dire, comme une attente permanente et comme un désenchantement. Nous ne cessons de lier l'attente et le désenchantement. Mais pourquoi y a-t-il ce lien permanent entre une attente et un désenchantement? Ça n'est pas simplement parce que la démocratie serait trahie par un certain nombre de nos mandants, même si c'est parfois, disons même peut-être souvent, le cas. Mais c'est aussi, me semble-t-il, parce que la démocratie, elle repose sur quelque chose de relativement indéterminé. Elle est un programme et un objectif, mais qui ne
automatiquement la résolution des questions qu'elle se pose. Lorsque l'on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, oui, mais qui définit le peuple? Comment est-il? Le peuple, évidemment, il existe comme concept, mais lorsqu'il s'agit de lui donner un visage, lorsqu'il s'agit de le représenter, eh bien, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Et on peut vous dire, d'une certaine façon, que la démocratie est un régime, de ce point de vue-là, marqué par des formes d'indétermination et même, on pourrait dire, de tension constituante. Je prends juste un exemple pour vous donner une image. Mais lorsque nous votons, nous attendons des choses contradictoires de ceux pour lesquels nous allons voter. D'un côté, nous attendons de celui pour lequel nous allons voter qu'il exprime nos réalités, qu'il donne en quelque sorte un langage à ce que nous vivons, qu'il soit un interprète fidèle de nos problèmes et de nos difficultés. On pourrait dire de ce point de vue-là qu'on attend de celui pour lequel on va voter qu'il obéisse à un principe de proximité, qu'il soit celui qui parle notre langage, qu'il soit proche de nos réalités, qu'il, à certains points de vue, vive presque notre propre vie. Et qu'il soit, pourrait-on dire à certains égards, une sorte de double valorisant de nous-mêmes. On voit bien à quel point dans les campagnes électorales, dans ces moments intenses, où il y a justement ce rapport qui vise à une sorte d'identification entre les électeurs et puis celui pour lequel ils vont voter, qu'il y a cette dynamique qui est toute centrée sur un principe de capacité. Mais d'un autre côté, nous attendons aussi de celui pour lequel nous allons voter qu'il soit capable d'être un bon gouvernant. Nous attendons aussi qu'il réponde à des principes de compétence ou d'expertise. Et là, ça n'est pas la ressemblance avec nous-mêmes, c'est au contraire, pourrait-on dire, sa capacité à se distinguer de nous-mêmes. Donc c'est un principe de capacité ou de distinction. Et on voit bien qu'entre les deux, il y a un peu une contradiction. Et cette contradiction, elle est très souvent d'ailleurs, la contradiction entre le moment des campagnes électorales, qui sont les moments de la chaleur, qui sont les moments de l'identité, qui sont les moments de l'attente, qui sont les moments du langage, et de l'autre côté, les périodes de la vie politique, qui sont celles où, on pourrait dire structurellement, les gouvernés et les gouvernants prennent leur distance. Et où alors à ce moment-là, effectivement, la période de l'identification s'est terminée, et si le rapport à la politique n'était qu'un rapport d'identification, des formes de désenchantement peuvent naître. On peut donner aussi d'autres exemples de contradictions structurantes de la démocratie. C'est que on voit bien qu'on ne peut pas faire, Jean-Claude Monod le rappelait, la démocratie avec 1 million de personnes qui décident ensemble. Donc on a inventé le système représentatif. Mais le système représentatif, il peut avoir 2 sens complètement différents. On peut dire que le système représentatif, c'est une sorte de béquille technique de la démocratie. C'est pour surmonter l'impossibilité de décider tous ensemble qu'on a inventé le système représentatif comme une sorte de technologie équivalente, en quelque sorte, à la démocratie. Mais certains, de l'autre côté, disent, et c'était le cas de nombreux théoriciens pendant la Révolution française et américaine, mais le système représentatif, il met aussi en place une sorte de division du travail dans la société, entre les politiques et puis les citoyens. Et donc, il faut comprendre la représentation, non pas simplement comme une espèce de technologie permettant de substituer, en quelque sorte, à une démocratie directe impossible, une autre forme, mais au contraire, un régime presque différent de la démocratie. C'est celui, je dirais, de la mise en place d'une sorte d'élite politique qui est vérifiée et consacrée périodiquement par les urnes. C'est 2 choses très différentes. Vous voyez donc que la démocratie, elle ne peut pas être saisie indépendamment d'un certain nombre de contradictions qui l'organisent. Et pour moi, réfléchir à la démocratie, c'est d'abord essayer de réintégrer tout le capital d'expérience de ces contradictions, de ces tensions, et de montrer comment ce rapport entre des attentes et des formes de désenchantement n'ont cessé d'être présentes. Et de ce point de vue-là, faire de l'histoire, ça n'est pas simplement, je dirais, raconter des choses du passé. C'est en quelque sorte éclairer le laboratoire de notre présent. C'est comprendre d'autres présents, comme des présents vivants. Non pas l'histoire comme des leçons qu'on pourrait apprendre, mais l'histoire pour redonner toute sa chair, je dirais, à ce qui a été le passé, comme lui-même un laboratoire tâtonnant, le lieu d'une expérimentation. Car effectivement, on peut dire que la démocratie, elle est essentiellement une expérience et qu'elle est essentiellement inachevée. Mais dire cela, cela peut paraître évident, mais c'est tranché avec beaucoup de personnes qui pensent que la démocratie, nous savons ce qu'elle est, que nous la possédons. Lorsqu'un certain nombre de pays disent « nous allons exporter la démocratie en Irak ou dans d'autres régions », on fait comme si la démocratie, on savait ce que c'était, c'était acquis, c'était quelque chose de simple. C'était un certain nombre de recettes élémentaires sur... Alors élémentaires, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas fondamentales et très importantes, mais des recettes, effectivement, sur la division des pouvoirs, sur les droits de l'homme, sur le pluralisme, sur les élections. Mais cela, c'est une vision étroite de la démocratie. Je pense que pour bien comprendre la démocratie, et je dirais même pour bien aimer la démocratie, il faut comprendre qu'elle embrasse un champ d'expérience humaine extrêmement large. Et ce champ d'expérience humaine, il se déploie, je dirais, sur 5 terrains fondamentaux. Et le mot même démocratie, tel que nous l'employons, renvoie à 5 types de réalités différentes. Quand on dit démocratie, on pense d'abord, tout simplement, à une procédure. La démocratie, c'est une procédure pour prendre des décisions ou une procédure pour sélectionner des dirigeants. L'élection, c'est une procédure pour décider ou pour prendre des décisions. Donc la première chose à laquelle nous pensons de la démocratie, c'est la démocratie, c'est un système procédural. Alors on peut ajouter un système procédural de prise de décision à travers le gouvernement représentatif ou les formes directes de référendum, à travers l'élection des représentants, et bien sûr, la démocratie de ce point de vue-là, pour exister, est inséparable d'un système de pluralisme, d'une possibilité de changer régulièrement les dirigeants, d'une compétition ouverte, et non pas simplement d'une élection une fois pour toutes. Puisque vous savez, même dans les théories de l'absolutisme autrefois, on disait l'absolutisme est fondé parce qu'à l'origine, les citoyens ont accepté la dynastie. Alors, comme ça, on dirait, bah oui, il y a 5 siècles pour accepter la dynastie, donc c'est la démocratie qui continue. Voilà. Donc la démocratie, c'est quand même périodiquement, remettre sur le chantier ce qui n'est jamais acquis comme légitimité. Mais la démocratie, c'est pas simplement une procédure. Dans notre langage même, ça désigne aussi une deuxième chose. On appelle démocratie, je dirais, un espace public vivant. On appelle démocratie une société dans laquelle la discussion existe, dans laquelle la contestation peut s'exprimer, dans laquelle la réflexion se manifeste. Donc c'est un deuxième champ de la démocratie. Pour dire la démocratie définit, de ce point de vue-là, un espace public et une qualité de l'espace public dans la société. Mais il y a un troisième champ de la démocratie qui est fondamental. Ce troisième champ, c'est que la démocratie, c'est aussi une forme de société. On le disait tout à l'heure, Tocqueville a insisté sur ce point-là, mais c'est quelque chose de fondamental. La démocratie n'est pas simplement un régime, elle est aussi une forme de société dans laquelle peut s'exprimer et prendre sens la concitoyenneté. C'est-à-dire un espace social dans lequel il y a des éléments de respect mutuel, dans lesquels il y a des éléments de reconnaissance, dans lesquels il y a des éléments d'égale dignité, et dans lesquels donc il y a des éléments d'égalité. D'égalité, c'est-à-dire que chacun peut se sentir membre comme les autres. Or ça, c'est un problème fondamental des démocraties. Fondamental parce que elles n'ont pas été, ces démocraties, justement, toujours, on peut dire que du point de vue des institutions, on peut avoir le sentiment qu'on est allé du suffrage censitaire au suffrage universel, d'une sorte de progrès linéaire, même si ce n'est pas toujours vrai. Alors que la démocratie en tant que forme de société, eh bien, elle a connu souvent des fortes régressions. Et on peut se demander si aujourd'hui, nous ne vivons pas un recul des sociétés démocratiques, avec un accroissement des inégalités, avec les formes de ghettoisation, avec les formes de séparatisme social. La démocratie, c'est donc aussi une forme de société. Et cela, c'était quelque chose de fondamental dans tous les débats politiques du XIXe siècle, parce qu'on ne peut pas séparer l'histoire de la République ou l'histoire du socialisme d'une réflexion sur la nature de la société démocratique, la nature de la concitoyenneté. Et la démocratie, quatrièmement, cela désigne aussi, dans le langage courant, disons, une forme de gouvernement. On appellera démocratie un système dans lequel les gouvernants ne s'abritent pas simplement derrière, je dirais, leur statut acquis, mais dans lequel il y a des formes de discussion, des formes d'interaction, des formes d'écoute, dans lesquelles, en quelque sorte, les gouvernants considèrent qu'ils ne sont pas immunes de toute discussion parce qu'ils ont été élus une fois tous les 5 ans. Et donc, c'est une qualité, je veux dire, la démocratie, une qualité de permanence de la qualité politique. Donc ça, c'est une quatrième champ. Mais il y a un cinquième champ, c'est de celui-là que je voudrais dire quelques mots plus rapidement. C'est que la démocratie, ce sont aussi des institutions. Quand on parle de régime démocratique, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'institutions. Et quelles sont justement les institutions démocratiques? Et comment définir les institutions démocratiques? Cela, c'était le cœur justement de ce livre que je viens de terminer, la légitimité démocratique, et qui part d'une réflexion très simple. Pour nous, et depuis longtemps, nous pensons évidemment que ce qui donne d'abord la légitimité, c'est l'élection. Et démocratique, ou sont démocratiques, des institutions qui ont été consacrées par le suffrage universel. Sont démocratiques des institutions élues. Eh bien, je pense que cette définition est insuffisante. Pourquoi cette définition est insuffisante? Tout simplement parce que la majorité n'est pas la totalité de la société. Et il faut réfléchir à cette particularité, justement, qu'a l'élection majoritaire. L'élection majoritaire, elle est incontournable. Elle est incontournable pourquoi? Parce que si l'on attendait qu'il y ait l'unanimité dans la société pour prendre des décisions, on n'en prendrait pas beaucoup. Donc je dirais que le principe de majorité est tout simplement un principe pratique de discussion. Et il a un avantage. Ce système de décision a un avantage considérable, c'est qu'il n'est pas susceptible d'être discuté. Parce qu'on peut discuter de tous les goûts, de toutes les couleurs, on ne peut pas discuter le fait arithmétique que 51 soit supérieur à 49. Donc il y a une espèce de vertu simplificatrice du suffrage majoritaire qui lui donne une sorte de force tranchante évidente. C'est le principe qui divise le moins, parce qu'il est le plus mécanique, il est le plus arithmétique. Et il a derrière ce caractère arithmétique une autre qualité qui est fondamentale, c'est que derrière le principe majoritaire qu'il y a dans le vote, il y a implicitement une autre vertu qui est très importante. C'est que les bulletins de vote ne font pas des différences de qualité dans les expressions. Or, les électeurs peuvent chacun voter pour des motifs très différents. Certains peuvent voter en choisissant par hasard au dernier moment. Certains peuvent voter après avoir lu des bouquins, réfléchi, s'être informé, regardé des informations. D'autres peuvent voter simplement sur la base d'un agacement, d'une indignation. D'autres simplement voter pour n'importe quel critère. Eh bien, la force du suffrage universel, c'est qu'il met fin à toute discussion sur la hiérarchisation des raisons du choix individuel. Parce qu'effectivement, on pourrait dire que dans une théorie, on pourrait appeler une théorie pure de la démocratie, on pourrait dire que l'idéal, c'est que la démocratie soit un régime dans lequel les citoyens soient des citoyens conscients, soient des citoyens rationnels, soient des citoyens très bien informés. Cela, c'est certainement un idéal. Et le problème est de savoir qui décide de celui qui est le citoyen rationnel, bien informé, conscient par rapport, disons, aux citoyens émotifs. J'étais la semaine dernière à une conférence à Oxford avec des universitaires chinois. Et alors, il y avait un universitaire chinois qui est très connu, qui disait « Oui, nous ne pouvons pas encore implanter la démocratie en Chine, la démocratie électorale. Nous avons implanté l'économie de marché. Ça marche très bien, parce que chacun est capable de comprendre son intérêt. » Mais il nous disait « Vous comprenez, le problème de la démocratie électorale, c'est que nous, les classes populaires, sont encore trop émotives. Donc, comme elles sont trop émotives, vous comprenez, elles feraient des choix comme ça... imprévisible, hein. Donc, tant qu'on n'a pas une classe moyenne solide, bien structurée, qui a émergé, ce serait une très grande imprudence, de donner le suffrage universel. À quoi je lui ai répondu, vous savez, je passe une partie de ma vie au 19e siècle, si je puis dire, eh bien, votre raisonnement, c'était le raisonnement des libéraux bourgeois de 1840. Il disait, voilà, mais attention, le peuple n'est pas assez éduqué. Et à la limite, même les pères fondateurs de la République, comme Jules Simon, comme Jules Ferry, ils étaient un peu borderline, disons, sur ces questions-là. Hein. Puisque même Jules Ferry, vous le savez peut-être, avait proposé, c'était le cas de Jules Simon également, que l'on finisse par enlever le droit de suffrage aux parents qui n'emmèneraient pas leurs enfants à l'école. Et qu'il y avait eu, pendant la Révolution, une des dernières constitutions, qui est une des constitutions très intéressantes, celle de 1795, qui avait prévu que 12 ans après le vote de la Constitution, on retirait le droit de suffrage à ceux qui ne sauraient pas lire et écrire et à ceux qui n'auraient pas pratiqué un art mécanique. Lire et écrire, c'est pour être des citoyens rationnels et conscients, et l'art mécanique, c'est pour dire que chacun doit être dans l'interaction sociale. Personne ne doit être un oisif. Tout le monde doit pratiquer un métier utile aux autres. Et donc, on avait dit aux Français, on vous laisse 12 ans. Donc, vous avez 12 ans pour savoir lire et écrire et pour montrer que vous êtes utile aux autres. Et puis, comme c'est Napoléon qui a fait son coup d'État, on n'a pas eu l'occasion de le vérifier. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'il y avait, au 19e siècle, il y avait en permanence cette réalité. Et même des grands philosophes de la République, de la Troisième République, comme Fouillé ou comme Renouvier, ont théorisé encore une vision capacitaire du suffrage. En disant, au fond, le suffrage universel est une sorte d'anticipation sur la réalité d'une société de citoyens rationnels. Eh bien, je dis, mais non. Le suffrage universel est, au contraire, la réalité d'une société qui accepte que le raisonnement le plus sophistiqué puisse voisiner avec la décision, là, disons, la plus passionnelle, si on veut. On peut souhaiter progresser, et on peut souhaiter évidemment agir pour aller vers une société de citoyens rationnels. Mais le problème, c'est que la démocratie, elle n'est pas simplement un idéal, elle est aussi un fait social. La démocratie, elle est aussi un régime de la paix sociale. Et un régime de la paix sociale, c'est un régime dans lequel il n'y ait pas d'autorité supérieure qui fasse la distinction entre les citoyens et qui les classe selon certains critères. On disait en 1848 que c'est le bulletin de vote qui a mis de côté le fusil de l'émeute. Et il y a des gravures célèbres de l'époque où on voit des ouvriers sur les barricades qui jettent leur fusil en tendant leur bulletin de vote. Et pourquoi ils peuvent jeter le fusil et tendre le bulletin de vote? Parce que justement, la parole de chacun ou celle des autres. Pas simplement parce que, arithmétiquement, une voix compte une personne, mais aussi parce que les différents motifs se valent et qu'il n'y a pas d'arbitre des élégances dans la démocratie. Donc, cela, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très important, et c'est pour cela que le vote majoritaire a cette force. Mais en même temps, il n'exprime qu'une partie de la société. Et l'idéal démocratique, c'est donc qu'il n'y ait pas de personne qui reste sur le côté de la route. L'idéal de la démocratie, c'est un idéal d'inclusion. L'idéal de la démocratie, c'est de faire communauté. L'idéal de la démocratie, c'est de faire corps. L'idéal de la démocratie, c'est de faire que chacun puisse avoir sa place. D'où le problème fondamental. C'est qu'on ne peut pas, dans l'ordre démocratique, confondre ce qui est de l'ordre d'un principe de décision, et, disons, le vote majoritaire, et ce qui est de l'ordre d'un principe de justification, qui là doit être plus exigeant et concerner toute la société. D'où le fait que dans l'histoire des démocraties, dès le 19e siècle, il y a eu le constat que le pouvoir majoritaire, c'était aussi, pour employer une expression commune, un pouvoir partisan. C'était souvent un pouvoir de parti pris. Et donc, ça avait même, dans certains cas, des conséquences dramatiques, parce que ce pouvoir partisan de parti pris pouvait être un pouvoir corrompu. Et le début de l'histoire du suffrage universel est inséparable de l'histoire de la corruption, surtout aux États-Unis, en France aussi, avec le scandale de Panama et bien d'autres. Et du coup, il y a ce sentiment très fort dans l'opinion, à partir du moment où le suffrage universel vient, que le suffrage universel est une institution incontournable, et en même temps, que s'il donne naissance à un régime du parti pris, un régime du partisan, il y a un problème. D'où la nécessité de trouver les moyens d'équilibrer les institutions partisanes, qui sont les institutions du gouvernement, par d'autres types d'institutions d'intérêt général, qui approchent l'intérêt général d'une autre façon. Et la manière qu'on a trouvée, et ce qui était à peu près dans tous les pays à la fin du 19e siècle, c'est de dire, ben, au fond, est-ce que ce ne serait pas un état de service public? La grande idée qui est née, c'est celle du service public. À côté d'un gouvernement passager, qui a une dimension partisane, et donc elle est démocratique comme procédure, mais elle n'est pas démocratique, je dirais, toujours substantiellement, parce qu'elle n'incarne pas toute la société, eh bien, il faut mettre en place des institutions qui puissent être stables et incarner en elles-mêmes l'intérêt général. Ce qui n'a pas été facile. Parce qu'au début, quel était le raisonnement? C'était de dire, puisque, disaient les gouvernants, puisque nous avons été élus au suffrage universel, nous sommes majoritaires, et donc, le peuple, c'est nous. Et comme le peuple, c'est nous, eh bien, l'administration doit nous obéir. Et du coup, on a considéré pendant très longtemps, c'était le système des dépouilles aux États-Unis, ou en France, c'était tout simplement la multiplication des épurations. Et on voit encore sous la Troisième République, eh bien, les facteurs, par exemple, qui sont nommés par le bon pouvoir du député local. Le système, disons, qu'on appelait du favoritisme. Donc, peu à peu, est née l'idée qu'il fallait rationaliser la fonction publique et lui donner pour cela un statut. Et l'histoire, dans notre pays notamment, du statut de la fonction publique, c'est l'histoire de la constitution d'une organisation publique qui puisse être incarnée en elle-même, en quelque sorte, l'intérêt général. À l'époque, il y a des juristes qui ont développé ce qu'un sociologue contemporain Bourdieu appellera le corporatisme de l'universel. Et les premiers à l'avoir d'ailleurs incarné, de par la loi, ce sont les enseignants. Parce que la première grande loi sur le service public, c'est une loi de 1896, qui fait que les universitaires sont cooptés par les pairs, et qu'on considère que c'est eux qui doivent définir le programme d'enseignement, et que c'est eux qui sont investis, en quelque sorte, personnellement, d'une mission de service public. Alors donc, peu à peu, on a eu cet attelage entre un pouvoir partisan, et puis des institutions de service public, et qui ont été... D'autant plus, cet attelage a d'autant mieux fonctionné que dans des périodes comme celle de la résistance en France, on a eu une catégorie de gens qui ont été indissociablement, pourrait-on dire, des fonctionnaires et des militants et des résistants. Ceux qui, dans la résistance, sont imposés comme, en quelque sorte, au péril de leur vie, des personnes en charge de l'intérêt général. Après, quand ils étaient des fonctionnaires, ils ont donné une tonalité, si je puis dire, indiscutablement de service public à leur fonction. Et cela a été très important pour toute une génération. Mais le problème, c'est que depuis les années 80, un peu partout, ben, tout ça s'est un peu effrité. Tout ça s'est un petit peu effrité parce que le service public est plus remis en cause. On l'accuse plus d'être corporatiste que d'être universel, d'être pas toujours justement au service du public, mais des fois d'intérêt propre. On a fait toute une nouvelle théorie de la régulation, et de l'autre côté, on constate aussi que dans un système politique qui est moins prévisible, eh bien le vote, on vote à un moment donné pour une personne, mais on sait que le vote, on ne détermine pas ce que sera la politique dans les 4 ou 5 ans à venir. Ce qui était le cas quand on votait pour un parti dans les années 1950, on savait que le programme qui allait être appliqué était inclus en quelque sorte dans l'élection. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'on vote pour une personnalité, mais ce que l'élu fera 3-4 ans après n'est absolument pas inscrit dans le moment du vote. Donc le vote est une procédure de nomination, mais n'est plus une procédure de détermination des politiques. Et cela aussi, tout simplement, parce que la prévisibilité du monde dans lequel on vit a diminué. Moi, je me souviens encore qu'à la fin des années 1960, le Parlement votait sur des taux de croissance à 5 ans. Bon, qui penserait aujourd'hui qu'on puisse un exercice démocratique consistera à voter sur 5 ans un taux de croissance. Donc il y a à la fois le changement de l'élection et puis ce rapport à la prévision au temps qu'elle changeait. Et c'est dans ce contexte eh bien, que, qu'émerge, pourrait-on dire, que, qu'émerge de façon expérimentale, qu'essaie de se définir de nouvelles institutions d'intérêt général. Et qu'est-ce qu'une institution de l'intérêt général? C'est une institution, justement, qui est une ambition de généralité. Et cette ambition de généralité, eh bien, elle se cherche à tâtons notamment dans deux directions, et là je ne fais que développer en deux mots avant de vous donner la parole pour que nous discutions ce que présentait Jean-Paul Monod. C'est-à-dire, puisqu'il est difficile de mettre en place des institutions dont on puisse dire positivement qu'elles incarnent le bien public, eh bien, essayons une autre stratégie. C'est de mettre en place des institutions sur lesquelles aucun intérêt privé ne puisse mettre la main. Donc des institutions définies par le fait qu'elles ne peuvent pas, si je puis dire, être privatisées, qu'elles ne peuvent pas être captées ou capturées par des intérêts partisans. Le premier exemple qu'il y a eu dans l'histoire, c'est l'exemple d'une commission aux États-Unis sur la régulation des chemins de fer, à la fin des années 1880. La régulation des chemins de fer était un problème économique et social vital à l'époque, parce que ça avait été un développement formidable, et c'était des compagnies, un petit nombre de compagnies, qui avaient des monopoles et qui, grosso modo, pressuraient les consommateurs. Et parmi ces consommateurs, il y avait notamment tous les petits paysans américains de l'époque qui devaient faire venir le matériel et exporter leur production à travers le Middle-West, et avec, ils étaient sous la coupe des compagnies de chemin de fer. Donc il y a eu énormément de mouvements sociaux, de manifestations, de protestations, même très violentes dans l'Amérique, des mouvements paysans dans l'Amérique des années 1880. Et donc le gouvernement, le Congrès s'est dit, il faut tout de même prendre des mesures. Seulement le problème, c'est que le président des États-Unis de l'époque s'appelait Harrison, et qu'avant d'être élu président, il était avocat des grandes compagnies de chemin de fer. Donc là, le Congrès s'est dit, tout de même, on ne peut pas. Bien sûr, il est président démocratiquement élu, il est à la charge de représenter la société, mais il n'est tout de même pas absolument non-partisan. Donc, on a mis en place, pour la première fois dans l'histoire, une commission indépendante de régulation pour défendre l'intérêt général, et notamment, c'était marqué dans les statuts de cette institution, être en quelque sorte l'avocat de tous les gens ordinaires pour se battre contre les grandes compagnies. Et si on prend l'exemple français, ben c'est très simple, on peut prendre deux exemples. Le premier exemple d'autorité indépendante, c'était la CNIL. La CNIL, c'est 1976. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur veut mettre en place une interconnexion de tous les fichiers informatiques. L'opposition se lève en disant « mais ça va être complètement liberticide. Cet instrument entre les mains du gouvernement, ça peut être la proie de toutes les manipulations. » Et la pression était tellement forte et il y a eu tellement de manifestations, vous en souvenez certainement un certain nombre d'entre vous, et bien que le gouvernement a dit, pour preuve de notre bonne volonté, ça va être une commission indépendante qui va maintenant gérer les questions de fichiers et dire quelles sont les interconnexions qui sont légales ou pas légales. De la même façon, c'était ensuite un autre exemple qui a suivi de quelques années, lorsque François Mitterrand, voyant quels avaient été tous les scandales sur l'ORTF, a dit, faut couper le cordon ombilical, la télévision est un bien public. Suivez mon regard sur les problèmes actuels. La télévision est un bien public et donc elle ne doit pas être entre les mains d'un pouvoir partisan. Le pouvoir partisan est pleinement légitime pour un certain type d'action, mais en matière concernant d'autres biens publics, ces biens publics doivent rester entre des mains non partisanes. Et cela montre bien d'ailleurs que dans la politique, il y a deux domaines différents. Il est normal qu'il y ait de la politique partisane. Et pourquoi il est normal qu'il y ait la politique partisane? Parce qu'il faut faire des choix. Parce qu'il faut faire des choix, il faut trancher. Alors certains tranchent en disant, le bouclier fiscal, c'est un bien, ils sont majoritaires, ils l'imposent. Et d'un certain point de vue, c'est ça, c'est une logique partisane, mais qui appartient à la démocratie aussi. Parce que la démocratie, c'est le mot kratos, là, si je puis dire, c'est qu'un parti l'emporte sur un autre. Parce que dans la société, ben voilà, tous les intérêts ne peuvent pas être conciliés, il y en a qui l'emportent sur des autres. Alors le problème est de savoir qui l'emporte sur qui. C'est la discussion démocratique. Mais qu'à côté, si la logique partisane doit avoir sa place, et cette logique partisane, c'est un lieu essentiel de la politique, parce que c'est au fond son objet, c'est de déterminer quelles sont les catégories du juste et de l'injuste dans la société. C'est tout de même ça, le fond de source. Hein. Et bien, de l'autre côté, il faut qu'il y ait des institutions, je dirais, qui soient celles du consensus. Des institutions qui représentent toute la société. Et du coup, on peut dire qu'une démocratie doit fonctionner de façon dualiste. D'un côté, des institutions partisanes, justifiées par le suffrage majoritaire, mais de l'autre côté, des institutions sur lesquelles les forces partisanes ne puissent pas mettre la main, et donc qui obéissent à un principe d'impartialité. Il y a une autre façon aussi de poursuivre l'intérêt général, c'est, si je puis dire, de compliquer, là que j'en fais référence aux complications aussi, de compliquer la démocratie. Car quand on simplifie la démocratie, au fond, on la mutile tout le temps. Je pense que c'est en compliquant la démocratie qu'on la complique. Et le grand philosophe qui avait cette idée de compliquer la démocratie pour l'accomplir pendant la Révolution, c'est une des grandes figures intellectuelles et politiques de la Révolution, c'est Condorcet. Condorcet avait compris qu'on ne réaliserait jamais la représentation parfaite, c'est-à-dire des représentants justement qui seraient la vraie incarnation du peuple. On ne ferait jamais des mécanismes représentatifs dans lesquels il n'y aurait pas de déperdition d'énergie. Et donc, il fallait en quelque sorte démultiplier les systèmes démocratiques. Entre les différentes catégories de représentants, c'est toujours, toujours, le représentant élu qui l'emporte. Pour la raison simple, c'est que le représentant élu, l'élection obéit à un critère qui est simple par rapport aux autres. Donc, il met fin aux discussions. On peut dire que c'est très... Si on doit décider qu'est-ce que l'intérêt général, on peut discuter longuement, parfois. Alors que savoir qui l'emporte dans une élection, ça c'est beaucoup plus simple. Je vais m'arrêter là parce qu'il faut qu'on ait surtout une soirée de discussion, mais c'est pour vous montrer très simplement que la démocratie, elle implique, pour être vécue comme expérience, mais d'être reconnue justement dans sa diversité et dans sa complexité. Et que Tocqueville, justement, là je me séparais nettement de lui, il disait juste avant 1848, ce qu'il y a de magnifique dans la démocratie, c'est qu'elle simplifie tout. Tout sera même une question d'arithmétique. Mais je dis non, au contraire, la démocratie, pour être accomplie, doit de plus en plus compliquer les choses. Parce que personne ne peut dire « le peuple, c'est moi ». Personne ne peut dire qu'il accomplit seul l'intérêt général. Et donc, faute qu'il y ait une seule voix autorisée qui puisse être l'intérêt général, eh bien, il faut multiplier les expressions diversifiées et les institutions diversifiées de représenter l'intérêt général. Car ceux qui ont pensé accomplir la démocratie dans la simplicité, voire dans la simplification, ce sont les pouvoirs de type totalitaire qui ont dit « la société, c'est moi », ou qui disaient « le parti, c'est la société, le bureau politique, c'est le parti, le premier secrétaire, c'est le bureau politique, donc le premier secrétaire, c'est la société ». C'est ce que Trotsky avait dit en riant une fois à des Français, il leur avait dit « oui, vous, en France, vous avez pu entendre Louis XIV disant « l'État, c'est moi ». Il a dit « nous avons fait beaucoup plus fort, nous avons dit « la société, c'est nous ». Et je crois que lorsqu'effectivement on pense que dans la démocratie quelqu'un prétend détenir le secret d'une incarnation de la société, eh bien là, la démocratie au contraire, elle dépérit. Et donc au lieu d'espérer dans un principe d'incarnation, il faut au contraire compliquer la démocratie. Compliquer la démocratie, cela veut dire aussi être vigilant en permanence. Pour faire vivre, il ne suffit pas de dire la démocratie est imparfaite, et comme elle est imparfaite, et bien on essaie de trouver des béquilles de l'imperfection. Non, il faut se battre sur tous les terrains. La vigilance dans le fonctionnement des partis politiques pour l'améliorer, dans la délibération publique, dans les institutions représentatives elles-mêmes, mais ne pas penser que c'est simplement du perfectionnement du gouvernement représentatif que naîtra le développement de la démocratie. Ceux qui ont eu cette illusion le plus dans le monde occidental, ce sont les Américains, qui à la fin du 19e siècle ont dit « Nous allons perfectionner la démocratie en inventant les primaires, le référendum et la révocation. » La révocation, donc, si quelqu'un ne nous plaît pas en place, on pourra l'éjecter, c'est le recall. Vous savez que l'excellent acteur Schwarzenegger est devenu gouverneur à la suite d'une procédure de recall. Le référendum, vous savez que dans tous les États américains, il y a à peu près une cinquantaine de référendums par an, à peu près, qui se tiennent au niveau du comté ou au niveau des États, ça ne va pas au niveau fédéral. Et puis enfin, les primaires, qui, en quelque sorte, redonnent aux citoyens ce pouvoir qui était confisqué auparavant par les appareils des partis politiques. On peut discuter de ces innovations. Elles ont sûrement du bon dans certains cas, et on en discute aussi actuellement en France, mais ce n'est pas simplement d'une perfection de la démocratie que naîtra, d'une perfection du système représentatif que naîtra le progrès démocratique. Le progrès démocratique naîtra si l'on reconnaît la complexité de la démocratie, si l'on reconnaît qu'elle a à la fois un régime, une procédure, une forme de société, une vie publique, une forme de gouvernement, et si on ne veut pas simplement, comme un certain nombre de personnes le font, vouloir la réduire à une seule de ses dimensions, ou à une seule de ses institutions, ou à une seule de ses procédures. Alors bien sûr, le suffrage universel domine la vie démocratique pour les raisons techniques et procédurales que j'ai dit. Mais la démocratie ne saurait pas se confondre avec le suffrage universel. Loin de critiquer le suffrage universel comme on le faisait au XIXe siècle, il faut au contraire vouloir le dépasser, vouloir enrichir la démocratie au-delà d'une simple démocratie du suffrage universel, aller plus loin. Voilà quel serait le message que je laisse à votre méditation pour commencer les questions. Merci.